En ouverture donc de toutes les émissions et tous les rendez-vous scientifiques à 14h sur France Culture, aujourd'hui bien sûr Continent Science, toujours en direct du studio 167 de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, un grand homme de stagiaire, Aristote. Et pour en parler avec nous, Pierre Pellegrin, qui vient de donner une nouvelle traduction des parties des animaux. Et puis aujourd'hui, ça sera l'ouverture comme à l'ordinaire de l'espace critique, mais avec Lydia Ménistiak. Et comme un autre ordinaire encore, tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière aujourd'hui, je retiens un poisson extrême, même franchement extrême, le Pseudoliparis ambliostomopsis. Il s'agit le concernant d'une affaire qui remonte à l'année 2008. Elle se situe dans les abysses océaniques. Il faut imaginer le décor, nous sommes à plus de 7000 mètres de profondeur. Là, les conditions vitales sont rudes, pas le moindre rayon de soleil, une pression équivalente au poids de plusieurs milliers de tonnes par mètre carré, et bien sûr, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les profondeurs abyssales ne sont pas des territoires luxuriants. Bref, ces paramètres extrêmes ne semblent guère propices au développement de la vie. En envoyant leur sous-marin baptisé Ocean Lab, qui explore ce milieu, des scientifiques de l'université d'Aberdeen en Grande-Bretagne ne s'attendait pas à trouver autre chose que quelques poissons indolents et solitaires. Eh bien non. Ils en ont découvert des dizaines vivant en groupe. Des, encore une fois, Pseudoliparis ambliostomopsis, tout blancs, bien vivaces, et évoluant en petits groupes sociaux et très actifs. Des merveilles d'adaptation. Ces poissons des grands fonds se nourrissent essentiellement de petits crustacés ainsi que des détritus et des carcasses se déposant au fond de l'océan. Si certaines espèces du groupe des Liparidés, groupe auquel appartiennent nos grands plongeurs, vivent, eux, près de la surface ou dans des piscines de roches, les poissons filmés ne se trouvent qu'à plus de 6000 mètres de profondeur au niveau des tranchées océaniques du Pacifique, dans des zones de subduction nées de la rencontre entre la lourde plaque océanique et les plaques continentales plus légères. Là, la profondeur peut rapidement tomber à plus de 10 000 mètres. À chaque faille correspond une espèce particulière de Liparidés dont très peu sont actuellement connus, en raison, encore une fois, des grandes difficultés d'exploration de ce milieu. Les derniers spécimens découverts avant cela dataient des années 50. Donc, pour conclure, il reste encore beaucoup de travail, de découvertes, pour tous ces submersibles scientifiques. Bonjour Pierre Pellegrin.
Bonjour.
Bienvenue à vous.
Merci.
Accompagné évidemment de cette traduction, cette belle traduction d'Aristote. Cette fois, il s'agit des parties des animaux. D'ailleurs, on peut peut-être anticiper, puisque c'est un gros projet que vous avez avec cette collection de Garnier Flammarion concernant Aristote.
En effet, c'est un projet qui englobe pas moins que la traduction complète du corpus aristotélicien tel que nous l'avons et qui est bien entamé. Les choses devraient paraître l'année prochaine en 2013.
Oui, vous avez donné une physique, vous avez donné la théorie du ciel. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors cette fois, vous êtes là, embarqué dans l'histoire des animaux.
Oui, c'est ça. En ce moment, je suis en train de traduire l'histoire des animaux, qui est le plus long ouvrage d'Aristote. Mm-hmm. 10 livres. Enfin oui, c'est le plus long. Une chose extraordinaire. Et voyez-vous, bien, j'ai changé sur... Enfin, on en reparlera un autre jour peut-être, mais j'ai changé d'avis sur bien des choses en traduisant l'histoire des animaux. Ah. Et notamment, je pensais à Aristote moins observateur et moins scientifique au sens moderne qu'il ne l'est réellement.
Oui.
Et je me rends compte qu'en fait, non, il y a une... il est un véritable biologiste au sens moderne du terme, chose que j'ai niée dans ma folle jeunesse.
Alors, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Vous vous êtes fait connaître, bien sûr, par un livre qui date de 1988, un livre que tous ceux intéressés et par les taxinomies 82, vous faites une petite correction, pardon, oui, moi je l'ai lu plus tard, et en tout cas donc un livre qui analysait sur ceux qui pensent qu'il y a une sorte de systématique prélinéenne possible dans l'œuvre du stagirite, et vous avez montré que ça n'était pas le cas. On va d'ailleurs en dire deux mots le concernant, et donc vous vous êtes spécialisé sur ces écrits dit zoologique du stagirite. Le fait que, en tout cas, on ait retenu ce thème pour ces rendez-vous de continuation, c'est que il s'agit, dans ce cas, de l'aube, d'une sorte de moment de naissance, en tout cas à travers ce travail du stagirite, d'Aristote, de cette science dont on connaît les immenses développements aujourd'hui, et qui est tout simplement la biologie. Et donc, évidemment, il convient de regarder quelques ancêtres, et s'il en fallait un, celui-là en est un. Alors peut-être, la première question, Pierre Pellegrin, encore une fois, vous allez vous occuper de la traduction de l'histoire des animaux, il y a aussi de la génération et de la corruption, il y a ce dernier, les parties des animaux. Dans cet ensemble du corpus consacré à la zoologie, est-ce que c'est le plus méthodologique d'une certaine manière ?
Oui, sûrement. Il y a trois grands traités dans le corpus zoologique. Il y a l'histoire des animaux, qui est le plus long, qui recueille les faits, oui. Non pas en désordre d'ailleurs, qui les organise bien en corrélation, n'est-ce pas, tous les animaux qui ont telle partie, etc. C'est loin d'être un désordre, c'est très systématique. Il y a la génération des animaux qui s'occupe, comme son titre l'indique, de la reproduction des vivants. Et il y a ces parties des animaux qui est vraiment la pointe de la zoologie aristotélicienne, où Aristote propose vraiment une explication à la fois finaliste et mécaniste des traits des êtres vivants. Je veux dire, les parties des animaux, oui, c'est vraiment une sorte de condensé, non seulement de la zoologie, mais de la physique, et en fait de la philosophie aristotélicienne.
Oui, alors ça vous le montrez bien dans cette longue préface que vous consacrez à votre traduction. Petit rappel, donc en grec, les choses se disent périzon morion, et vous expliquez évidemment, morion ça veut dire partie,
oui.
Vous expliquez bien sûr qu'il y a une sorte, il y a un corps de doctrine qu'on peut dire, ou en tout cas une méthodologie aristotélicienne qui est une moriologie.
Oui, c'est ça. En montrant qu'Aristote n'était pas un taxinomiste, j'ai aussi montré qu'il était un moriologiste. C'est moi qui ai créé ce mot en français,
oui,
je crois.
Absolument,
je crois. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, loin d'examiner comme quelqu'un comme Buffon, les animaux un par un, examine les fonctions et donc ce qui porte les fonctions, à savoir principalement les parties. Et Aristote est un anatomiste comparé. Je veux dire, c'est pas pour rien si Cuvier s'est mis dans la ligne d'Aristote.
Eh oui.
Et Cuvier le connaissait très bien. Cuvier qu'on a appelé l'Aristote du 19e siècle.
Oui. Le dit Cuvier d'ailleurs, qui a dit que d'une certaine manière, et là il se trompait un petit peu justement par rapport à ce qu'on a dit, que toute la systématique des animaux était sortie d'un seul coup de la tête d'Aristote, du stagirite, et puis aussi il l'a reconnu évidemment comme très très grand devancier. D'ailleurs, petite question d'ordre général, il faut attendre assez tard pour voir une sorte de rebond, de relance des études biologiques que d'une certaine manière Aristote avait vraiment installé, hein.
Oui. Et alors, si vous voulez, on peut aborder le corpus biologique de deux points de vue. Et d'abord, du point de vue interne à l'aristotélisme. Et ça, c'est vrai que quand j'étais jeune, mes maîtres, dont certains sont disparus déjà, ne lisaient pas le corpus zoologique. Il y a eu ce qu'on appelait le biological turn dans les années 60, sous l'influence de David Bulme en Angleterre, de quelques Américains. Nous avons vraiment rééquilibré, si vous voulez, l'approche de l'aristotélisme. Et ça, pour nous, du point de vue professionnel, c'est très important. Il y aura autre chose, c'est que Aristote est un biologiste, donc intéresse plus que les historiens de la philosophie. Mais il n'empêche que mon premier intérêt, ça a été de, en mettant de niveau, au niveau avec les autres textes de la physique, de la métaphysique, etc., les textes biologiques, de purger notre lecture d'Aristote, de préjugés à la Léon Brunschvig, à savoir qu'Aristote était au niveau d'un enfant de 9 ans.
Etc. C'est terrible cette phrase.
C'est terrible, oui. Et on lui a tellement reproché. Et que de montrer que le finalisme d'Aristote, qui était à l'œuvre dans la métaphysique et partout, s'était vraiment élaboré et affiné dans les œuvres biologiques. Et que que toutes les grands concepts aristotéliciens, la puissance, l'acte, la forme, la matière, s'étaient élaborés biologiquement. Enfin, je veux dire, Aristote est un philosophe biologisant, c'est sûr. L'idée que l'être naturel par excellence, c'est le vivant, ça change tout. Par exemple, la génération de la corruption que vous citez tout à l'heure, tant qu'on a toutes ces affaires sur l'augmentation, la diminution, la transformation, tant qu'on y a vu une spéculation physico-chimique, à savoir l'augmentation du sable dans un sablier quand le sable tombe, du tas de sable dans un sablier, on en a compris qu'à moitié. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que ces processus physiques, ils sont pleinement déployés qu'à l'intérieur des êtres vivants.
Oui.
Enfin, je veux dire, c'est une lecture complètement différente d'Aristote, de celle de nos prédécesseurs. Réintégrer le corpus biologique dans la philosophie d'Aristote, ça a été salvateur pour l'histoire de la philosophie d'Aristote. Et ça a été salvateur aussi pour la biologie, parce que quand j'étais jeune, donc, la biologie d'Aristote n'était pas ignorée, mais elle était étudiée par des biologistes ou des médecins dans une perspective continuiste. C'est-à-dire qu'on montrait qu'Aristote avait commencé, alors là, sur les poumons, il avait raison, sur les sutures du crâne, il avait tort, etc. Non, je pense qu'Aristote méritait mieux que ça. Il méritait d'être étudié pour lui-même, à la fois comme biologiste, et puis évidemment pour lui-même comme philosophe, avec cette dimension de la biologie qui est plus qu'une illustration. Les textes biologiques ne sont pas une illustration des thèses. C'est le laboratoire où se sont formés les concepts aristotéliciens. Ça, c'est fondamental.
Oui. On peut le dire de deux façons, d'une certaine manière, et c'est ce que vous dites un petit peu, Pierre Pellegrin. C'est que tous les textes zoologiques, d'une certaine manière, pourraient rentrer dans le corpus général à égalité avec, par exemple, les traités qui sont purement, allez, on va dire, méthodologico-théorétiques, comme ceux qui relèvent de la logique, ainsi de suite. L'organone, par exemple. Évidemment, au même niveau dans le grand ensemble de la physique, on retrouve évidemment à l'œuvre, dans les écrits zoologiques, ce qu'on trouve dans la physique. La théorie des quatre causes, par exemple, le dédoublement des concepts de la puissance et de l'acte, ça se retrouve partout. Donc, ce qu'on peut peut-être retenir, alors ça va être compliqué, ça va être un petit peu subtil, on va essayer de démêler tout ça, mais ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que, si je vous ai bien entendu, si je vous ai bien lu, il y a une sorte de... Dans le spectacle de la nature, dans le projet de compréhension philosophique de la nature, il y a une sorte d'excellence de l'univers vivant, ne serait-ce que parce que c'est lui, d'une certaine manière, on verra avec un certain nombre de caractères, qui montre les êtres les plus achevés.
C'est ça. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de la théorie des quatre causes qui est fondamentale chez Aristote, puisque il pense que c'est sa grande découverte. Ses prédécesseurs ont découvert les causes une à une, la matérielle, la formelle. Alors bon, on va pas financer les présocratiques, c'est la matérielle, Platon, c'est la formelle. La finale, c'est un peu Platon. Bon, l'efficiente, c'est les atomistes aussi, par exemple.
Ouais.
Donc lui estime que il finit la philosophie. Je veux dire, c'est pas très... c'est un peu présomptueux de sa part. Il finit la philosophie définitivement parce qu'il a découvert les quatre causes. Bon, les quatre causes, à quoi s'appliquent-elles complètement? Aux êtres vivants, à personne d'autre. C'est-à-dire, il y a quand il y a une pierre qui tombe, certes, il y a une cause motrice et matérielle, mais il n'y a pas de cause finale. À moins de penser. Le tonnerre n'a pas de cause finale, à moins d'être dans la superstition et de penser que c'est un signal des dieux.
La pluie n'a pas de cause finale.
La pluie. Contrairement à ce que beaucoup de mes collègues ont soutenu, la pluie n'a pas de cause finale. C'est au vivant de s'adapter à cette chose automatique qu'est la pluie pour, comme vous le disiez à propos des poissons tout à l'heure de Grandfond, pour ruser avec ce donné et puis en prendre quand il y en a peu, savoir s'en passer, quand il y en a beaucoup, savoir le digérer, ce trop-plein, etc.
On peut peut-être retenir cette idée. Donc la pluie n'est pas faite pour pleuvoir sur les champs, pour faire pousser le blé qui nourrira les hommes. Là, on se retrouve devant une espèce de fable qui est totalement éloignée, au contraire, même ici oppose. Aristote.
Oui, absolument. Aristote n'est absolument pas... On va parler du finalisme aristotélicien, si on ne pourra pas l'éviter.
Bien sûr.
Aristote n'est absolument pas dans le même panier ou dans la même paroisse que Bernardin Saint-Pierre qui disait que les melons avaient des côtes pour qu'on les partage
en famille
sans que ça fasse d'histoire à table. C'est pas une... Ou même un finalisme à la Platon, un finalisme un peu naïf avec des intentions. Contrairement à ce qu'on a dit, il n'y a pas d'intention dans la nature chez Aristote.
Il est antiprovidentialiste.
Oui, c'est un antiprovidentialisme.
Oui.
Et tout simplement parce que son cosmos est éternel, n'a jamais été créé, ne finira jamais. Donc on ne voit pas comment il y aurait des intentions. Une intention, ça suppose une délibération. Je veux dire, tiens, je vais faire ça parce que c'est mieux que ça. Il n'y a jamais eu ça. Et toutes les formules d'Aristote, la nature fait toujours le mieux, la nature donne d'un côté ce qu'elle enlève de l'autre, tout ça, sont métaphoriques. La nature n'a jamais rien donné, puisque les homards ont toujours eu des pinces, les dauphins ont toujours eu des poumons. Et nous avons toujours eu la station droite. Donc la nature ne nous donne pas la station droite parce que nous la méritons. Elle nous l'a toujours donnée. Donc il n'y a pas de providentialisme. Vous avez raison.
Suite donc de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Pierre Pellegrin, autour de cette traduction nouvelle des parties des animaux, du stagirite donc d'Aristote. Alors justement, on peut peut-être regarder dans la hiérarchie des choses, rapidement bien sûr, mais ça nous permettra de classer dans le système aristotélicien la place, de mettre à leur place donc les animaux. On sait que tout commence d'une certaine manière, enfin tout commence puisqu'il est éternel, immobile, mais en tout cas tout part de ce moteur immobile, éternel, bien sûr, sans mouvement, et qui lui va animer le premier ciel, et puis de manière dégradée, on va arriver à cet univers soumis à corruption, l'univers sublunaire, on va arriver à cet univers soumis à corruption, à génération. Alors, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé, on peut conserver cette idée.
Oui, oui, à ceci près que le premier moteur immobile n'anime pas, parce qu'il ne fait rien.
C'est ça.
C'est le premier ciel qui, par une sorte d'amour d'Eros, n'est-ce pas, il dit Eros, est saisi d'amour pour ce premier moteur immobile qui est Dieu, et limite. Donc c'est lui-même qui s'auto... C'est un point très obscur de la doctrine d'Aristote, dans laquelle tous ces commentateurs se sont heurtés, par exemple Thomas d'Aquin, évidemment, qui a voulu en faire le dieu de la Bible.
Bien sûr, dieu créateur, ce qui est absolument jamais...
En tout cas, ce que
jamais...
je dis, c'est vrai, c'est ça, à partir de ce premier moteur... qui impulse, bien qu'il n'impulse pas, le mouvement partout. Nous sommes dans un univers, certes immobile et éternel, mais constamment en mouvement.
Oui. C'est du Parménide corrigé. Évidemment, on suit Parménide, puisque de toute façon, on ne pourrait pas faire sortir du néant quelque chose. Donc, c'est pour ça que de toute éternité existe cette entité extraordinairement abstraite, sphérique, d'une certaine façon aussi, puisque c'est la forme parfaite. Mais conjugué à la sauce stagirite, à la sauce aristotélicienne.
C'est ça. Alors, le cosmos est donc éternel, parce que l'idée de faire venir quelque chose à l'être du néant ou de faire partir quelque chose de l'être au néant est absurde, Parménide l'a montré. Et au niveau des animaux, il faut que... C'est ça le fondement du fixisme d'Aristote, n'est-ce pas ? Le fixisme qui s'oppose à l'évolutionnisme. Mm-hmm. Hein ? C'est-à-dire que toute espèce animale doit être suffisamment parfaite. C'est important, suffisamment parfaite. D'ailleurs, c'est un oxymore, suffisamment parfaite, en fait, parce que si on est parfait, on n'est pas suffisamment.
Bien sûr.
Assez parfaite pour pouvoir survivre éternellement. Et ça, c'est ce qui explique la... c'est ça le fondement du finalisme aristotélicien. C'est-à-dire qu'il va montrer que tous les animaux, du ver de terre à l'humain, est suffisamment bien organisé intérieurement et par rapport à son milieu pour qu'aucune catastrophe ne puisse arriver à l'espèce et qui puisse la rayer de la carte. Et ça, c'est ça le fondement. Vous savez qu'on a toujours opposé Darwin et Aristote. Mais en fait, Darwin, évidemment, ce qui les oppose, c'est le transformisme. Aristote est fixiste, Darwin est transformé. Mais finalement, j'ai un collègue qui s'appelle Alan Gottelf, qui est un des agents du Biological Turn, qui a montré que Aristote et Darwin n'étaient pas si loin que ça. À savoir que tous les deux décrivent et évaluent les espèces en termes d'avantages-désavantages.
Oui.
Et au fond, c'est ça la révolution darwinienne, bien plus que l'évolutionnisme qui avait déjà été posé par Lamarck, etc. Mmh. C'est l'idée qui a donné des déviations dans le darwinisme social, évidemment. C'est l'idée qu'une espèce étant donnée, il faut qu'elle maximise ses avantages, qu'elle minimise ses désavantages pour survivre, autrement elle va être... Bon, chez Aristote, une espèce maximise ses avantages suffisamment pour survivre.
Je vous propose, Pierre Pellegrin, on en avait convenu, de toute façon, on va reprendre évidemment son perdre notre fil, notre conversation au point où nous le laissons un instant, mais on avait convenu de donner quelques exemples tellement ils sont savoureux. Alors moi je ne vais pas le lire, vous allez en lire un, mais simplement je retiens que très tôt dans ce livre 1, qui est le plus méthodologique de ces parties des animaux, il y a cette chose suivante que je partage infiniment, c'est que certains considèrent qu'il y a certains des animaux qui sont laids. Aristote dit non, il n'y en a aucun qui soit ignoble, qui soit moche. Ils sont tous absolument dignes d'intérêt et il faut les étudier, quels qu'ils soient. Donc, en tout cas, là, il n'a pas une espèce de critère esthétisant un peu qui le transformerait en chuchote choqué par certaines réalisations de la nature. Non, pas du tout. Tout est bon et tout est à regarder et tous les vivants sont intéressants. Alors, lecture, vous avez choisi quoi comme première lecture la saveur du texte?
J'ai choisi un texte qu'on a souvent cité, oui. Parce que je vous dirai pourquoi après. Parce que c'est un euphémisme, il couvre un euphémisme. C'est pourquoi, écrit Aristote, c'est au livre 1, chapitre 5 des parties des animaux, c'est pourquoi il faut éviter un dégoût puéril en considérant les animaux les plus ignobles. Car dans tous les êtres naturels, il y a quelque chose de merveilleux, et comme on rapporte qu'Héraclite l'a dit à des étrangers qui voulaient le rencontrer, mais qui s'arrêtèrent en entrant, le voyant se chauffer auprès de son four, il les invita en effet à entrer hardiment, car là aussi il y a des dieux. De la même manière, il faut aborder la recherche sur chacun des animaux sans répugnance. L'euphémisme, c'est que se chauffer auprès de son four, c'est en fait une manière de dire est en train de faire ses besoins, n'est-ce pas, aux toilettes. Donc il est vraisemblable que Héraclite, je pense que c'est vrai qu'Héraclite était en train de déféquer comme Louis XIV y recevait. Et il va dire, oh, excusez-nous. On rentre et dit, mais non, là aussi, même dans la fonction intestinale, il y a des dieux, parce que c'est merveilleux. Effectivement, Aristote a étudié l'intestin de manière extraordinaire.
Ah oui, oui. Et extraordinaire, différentes parties.
Extraordinairement fine, n'est-ce pas?
Eh oui, oui, ça c'est l'évidence même. Alors, on va revenir, première affirmation d'ailleurs, qui fait qu'il ne partage absolument pas un certain nombre d'idées qui se sont imposées, qui étaient une sorte de philosophème biologique. Par exemple, une scala natura, c'est-à-dire une échelle des êtres. Chez lui, ça ne va pas du plus minable ou en tout cas du moins perfectionné à la sublime perfection et qui bien sûr est toujours représentée à partir du vermisseau ou du ciron par l'homme à l'autre bout de la chaîne. Ça n'existe pas chez Aristote d'abord.
Alors, ça existe et ça n'existe pas. Oui. C'est-à-dire qu'il est certain que, comme il dit, l'homme est le plus naturel des animaux et est le modèle de la chaîne animale qui n'existe pas, et le modèle de tous les animaux, lui seul est droit, etc. Mais d'un autre côté, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas de scala naturae, parce que Aristote, même s'il peut mettre les différents vivants sur une échelle de perfection plus ou moins grande, oui. En fait, deux vivants ne sont jamais totalement... rangeable, je ne sais pas si on dit ça en français, sur cette échelle de perfection, parce que certes je suis supérieur au chien intellectuellement, mais question odorat, il n'y a pas photo comme on dit. Donc il y a cette excellence est pluri, il concilie cette espèce d'excellence polygonique, hein, le fait que l'homme a été créé comme, l'humain et spécialement l'homme, puisque l'homme est supérieur à la femme. Pour lui, comme modèle vivant quand même, l'animal le plus conforme à la nature. Et c'est pour ça qu'il prend l'homme comme modèle d'étude dans l'histoire des animaux. Il part de l'homme, du schéma humain, et il montre comment les... C'est une anatomie comparée, comment chez les langoustes et les crabes, eh bien, il y a quand même une sorte de schéma qui correspond. Grâce à sa notion d'analogie, qui correspond à ce schéma humain qui est dans tous les animaux. Quoi.
Rétrospectivement, on voit bien pourquoi ça a intéressé furieusement Cuvier, d'ailleurs, puisque de toute façon, réfléchir sur l'analogie, on passe très très vite ensuite à l'homologie, un des grands concepts inventés par Cuvier, ou en tout cas mobilisé par Cuvier pour comparer les animaux. Alors, d'abord, petit détail pour montrer en tout cas l'importance de l'enquête. À un moment, vous vous rappelez, Pierre Pellegrin, que c'est grosso modo une 500 espèces qui ont été considérées. 500 espèces
oui.
à travers le corpus entier
oui.
des écrits zoologiques d'Aristote.
Oui, oui, oui. oui.
C'est énorme.
C'est énorme, c'est énorme. Et alors là, vraiment, je suis revenu sur des choses que j'avais soutenues dans le temps. Il les a observées par lui-même, ça se voit, il les a disséquées, etc. Et alors, la diversité vivante, ça, c'est un point très, très important chez Aristote. Parce que s'il avait voulu simplement faire œuvre apologétique en quelque sorte, c'est-à-dire démontrer la bonté de la nature. Il suffisait de prendre l'homme, le chien, la langouste et puis voilà, il montrait que jusque dans... Mais il y a une sorte de curiosité immotivée chez lui qui est extraordinaire et je voudrais insister sur ce point et peut-être même lire un autre texte à ce
Allez.
Propos. C'est que il est toujours, il n'essaye pas, n'est-ce pas ? Il n'essaye pas de réduire à la cause finale, tout ce qui existe. C'est-à-dire qu'il est respectueux de la diversité des vivants. Il s'incline devant la diversité des vivants. Et regardez, je vous lis ce texte. « Tous les poulpes ont deux rangées de ventouses. » Pourquoi tous les poulpes ont deux rangées de ventouses ? Parce que c'est beaucoup mieux pour attraper. Du point de vue finaliste, c'est beaucoup mieux pour attraper les proies, d'avoir deux ventouses par deux ventouses. Tous les poulpes ont deux rangées de ventouses, sauf une famille de poulpes qui n'en a qu'une.
Bon.
La cause en est la longueur et la minceur de leur nature, car il est nécessaire qu'un tentacule étroit ait une seule rangée de ventouses. Ce caractère ne leur appartient donc pas parce qu'il est le meilleur, mais parce qu'il est nécessaire à cause de la forme propre de leur substance. Ça, c'est extraordinaire. On voit que c'est quelqu'un qui ne cherche pas absolument à tout justifier, à dire non, il se trouve, c'est mieux d'avoir deux ventouses. De rangées.
De rangées, oui.
Je regrette, quand je regarde dans la mer, j'en vois un qui a les tentacules tellement étroits qu'il peut y en avoir qu'une. Bon. S'il arrive à compenser ce désavantage par des avantages suffisants pour ne jamais disparaître comme espèce, eh bien, bienvenue au club, après tout.
Oui. Hein,
vous voyez, mais jamais. Alors qu'un homme comme Bernardin de Saint-Pierre aurait inventé des choses, il y en a, c'est un avantage d'avoir qu'une seule rangée, parce que comme ça, ils sont petits, ils peuvent se faufiler, etc.
Providentialisme, quoi.
Oui, c'est ça. Ou bien Dieu veut nous montrer comme ça ce
oui,
que c'est
ça.
Que,
oui.
Ce que c'est qu'un pauvre poulpe qui n'a qu'un, etc. Non, lui, non, il dit, c'est pas un avantage. Mais, après tout, s'ils s'en tirent comme ça, les cerfs ont des cornes qui les embarrassent. Mais si, après tout, la nature peut compenser ça,